Vous écoutez
RMC.
RMC.
Le cri du cœur du super Moscato Show.
Le cri du cœur du super Moscato Show, c'est le judoka Axel Clerget qu'on accueille avec grand plaisir dans le super Moscato Show. Salut Axel.
Salut Axel.
Salut tout le monde.
Bienvenue. C'est bien foutu puisque en même temps, au même moment, eh bien, on vit les championnats d'Europe à Tbilissi avec Morgane Maury. Morgane, la finale de Manon Dekéter arrive, hein.
Oui, dans 1 minute 30 environ, Manon Dekéter, sa première finale d'un championnat d'Europe. Elle qui est déjà médaillée de bronze mondial, c'était en 2022. Elle va affronter la néerlandaise Joanne van Lieshout, championne du monde 2024.
Alors Axel, tu es venu nous présenter ton documentaire et tu vas te retrouver à commenter une finale de championnat d'Europe. C'est la vie, hein, c'est comme ça. Axel, le documentaire s'appelle le 174e combat. Tu avais décidé pour la prépa olympique de 2024 d'être suivi par une équipe pour ce documentaire. Donc on part dans les coulisses d'un champion qui prépare les JO sans aucune assurance d'y aller, puisque c'était ça le défi. À la fin, ça se termine pas très bien puisque c'est pas toi qui es choisi. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce documentaire?
C'est mon agence de com qui me l'a conseillé à la base, et en fait j'avais aussi envie de laisser une trace pour mon fiston.
Ah bon?
En fait, c'est vrai qu'il y a un reportage, il y en a plein, il a 7 ans.
Okay.
C'est vrai que les reportages, enfin, t'en as plein à la télé, mais tu les retrouves plus après. Là, je me rends compte qu'on est avec l'arrêt de carrière que je retrouve rien.
Et
là,
moi, des ça sujets, des reportages.
Ouais, bah là, t'as le DVD, chez toi, quoi, maintenant.
Quoi?
T'as le DVD chez toi.
Alors, le documentaire, donc, c'est les coulisses de la préparation olympique. C'est aussi la transmission. Alors, il y a un peu un retour aux sources. Et puis, ce que tu laisses derrière, la façon dont tu vas gérer ton après-carrière. T'avais 36 ans quand tu t'es lancé dans cette aventure. Donc, c'était quand même pas gagné d'aller au JO. Qu'est-ce qui t'a poussé à le tenter, en fait?
36 ans. C'est super jeune, Pierre. C'est mon âge.
T'as arrêté ta carrière, Alizé,
si je ne m'abuse.
Je suis retraité.
Mais je suis encore en pleine forme.
Ça se voit.
Pour moi, c'était possible. C'était impossible, surtout, d'arrêter. T'es champion olympique par équipe après Tokyo. Il reste que 3 ans pour aller jusqu'à Paris. J'étais au top de ma forme. En fait, ce qui est bizarre, c'est que j'ai toutes mes médailles après 31 ans. Donc, l'âge, on va dire que j'ai lutté contre l'âge. Donc, il fallait tenter jusqu'à Paris. Tu pouvais pas laisser comme ça. Et la concurrence, au moment où j'essaie de continuer, il n'y a pas beaucoup de moins de 90 kilos qui sont costauds à ce moment-là.
T'y crois beaucoup quand tu pars sur cette aventure-là?
Ouais, j'y crois. J'y crois à fond. Après, je me
rends compte. Attends, t'as coupé ton micro, comment t'as fait?
Non, c'est
le pouvoir magique.
C'est quand Denis parle, que tous les micros
sont. Non, mais j'imagine que tu avais des espérances, des rêves au fond de toi.
Il y a un problème avec le micro d'Axel.
Alors, on va aller à Tbilissi, la finale a démarré pour Manon Dekéter, Morgane.
Prise au sol, une action un peu molle, Van Lieshout qui la pousse sur le dos et qui vient immobiliser la Française. Déjà 7 secondes de passé, ça veut dire un yuko, 2 yuko pour Van Lieshout. 10 secondes, c'est un Ouazari, encore 10 secondes et il y aura Hippon, et Manon Dekéter sera deuxième de ce championnat d'Europe où elle n'arrive pas à sortir de ce Kuzure Yokosho Gatame. Elle est placée sur le côté, la néerlandaise Van Lieshout qui s'impose dans cette finale. Il n'y a pas vraiment eu de finale pour Manon Dekéter. Une erreur de placement, une attaque en demi-teinte et Van Lieshout qui en profite, qui va au sol et qui termine en Ewaza, le sol, le judo. Au sol, 53 secondes seulement dans cette finale. Elle est prostrée à plat ventre sur le tatami de Tbilissi. Manon Dekéter, médaille d'argent. Elle revient de loin après de longues blessures au genou. Médaille d'argent pour la moins de 63 kilos du club de Blanc-Ménil.
T'as vu le mouvement, Axel, ou pas?
J'ai vu que la fin, parce qu'on était en train de discuter.
Ouais.
Mais clairement, là, en début de match, tu te fais gauler au sol, comme on dit. Pour sortir, c'est compliqué. C'est super fraîche physiquement.
C'est quand même violent ce sport, parce qu'en 50 secondes, tu peux perdre ta médaille. Quoi.
Ouais.
Une mauvaise action, c'est un faux pas, et salut.
C'est ce qu'on dit dans le documentaire, ouais. À un moment aussi, c'est moi l'action pour les Jeux,
ouais.
Je perds en 23 secondes. Quoi. Donc c'est horrible, mais c'est ce qui fait la beauté du judo aussi, c'est que tu peux battre n'importe qui en pas longtemps. Donc voilà, c'est qu'il y a une incertitude. C'est vrai qu'on aimerait des fois avoir une deuxième chance quand on ton sport, on aura le temps de rattraper.
Si
on fait une faute, on peut quand même jouer d'autres points.
Alors tu évoques beaucoup de choses dans le documentaire, et notamment l'après-carrière, parce que tu en fin de compte, il y a une séquence un peu hallucinante où tu te dis, là, j'ai vraiment envie d'y aller, mais il faut vraiment pas que j'y aille en fait pour ma santé. C'est-à-dire que t'hésites entre le fait d'être sélectionné, aller faire les JO, et arrêter pour éviter le combat de trop, le choc de trop, la commotion de trop.
Ouais, c'était un discours interne qui était super compliqué. J'avais plein de questionnements à ce moment-là. Tu te dis, bon, faut que j'arrête. En même temps, je prends des risques tout le temps. Ça fait 2-3 ans que j'en prends. J'ai fait une grosse commotion en 2021, en fait. Donc, j'avais des symptômes qui restent. D'ailleurs, juste après, je vais voir mon kiné vestibulaire pour encore travailler quelques petites choses qui sont déréglées. Donc, ouais, j'hésitais, j'étais entre deux, mais comme je te le dis avant, tu peux pas t'arrêter, t'as les jeux à la maison, c'est un rêve de gosse. Tu dis, bon, je ferai le taf après ou je vais faire attention, quoi.
Alors là, t'es bien, physiquement? Enfin, je verrai sur les commotions, tout est géré.
Donc c'est un sujet que j'ai envie de porter, c'est un sujet que j'ai envie de développer. Pourquoi pas créer un centre, parce que je suis kiné aussi, créer un centre pour lutter contre les commotions cérébrales. Parce que c'est vraiment une blessure qui est grave. J'ai eu des gamins qui étaient déscolarisés et tout.
Il y a des protocoles en judo, comme au rugby, ou?
Ouais. Il y a des protocoles. La Fédé française est assez précurseur. On a une sorte de carton bleu comme vous. Pas encore international. Mais du coup, il y a des protocoles après qui t'obligent de t'arrêter. Et on a un vrai suivi, quoi.
Alizé.
Moi, j'ai plein de questions après avoir vu le documentaire. Mais il y a une scène assez folle et assez forte. C'est quand tu dois perdre presque 3 kilos en l'espace de 4 heures pour faire le cut des 90 kilos. On doit empiler les bonnets, les parkas et faire des efforts alors que tu n'avais presque pas mangé avant. Comment tu as géré tout au long de ta carrière ce rapport à la nutrition, à la perte de poids, à gérer son poids pour tout le temps être dans les cuts? Est-ce que c'était un stress permanent pour toi?
Bah, je l'ai pas géré, regarde, j'ai pris 10 kilos de plus.
Ça, c'est normal.
Non, mais pendant la carrière.
Non, ça fait partie de notre sport. C'est-à-dire que ça, pour nous, c'est impressionnant, mais t'as vu, comme je l'ai marqué, de ne pas reproduire, et ça reste une toute petite partie. Mmh. La réalité, c'est les contraintes et les pertes de poids que tu fais avant. Mmh. La restriction, tu vas chez tes potes avec un tupperware et tes courgettes dedans et ton blanc de poulet. C'est ça, la réalité. C'est que tu dois faire attention à tout. Et c'est ça qui est plus difficile que la perte de poids qui dure.
Oh, tu me regardes,
qui est spectaculaire, mais qui dure pas longtemps.
Je me dis que t'aurais pas pu faire du judo, en fait, tout simplement.
Après, c'est les courgettes. Quand tu débarques chez les gens, c'est pas avec un tupperware
et les courgettes. Ben oui.
Parce que maintenant, je me rends compte que c'était hyper dur de penser tout le temps au poids.
Ah oui, j'imagine.
Je me rends compte maintenant.
Ouais. Ça te manque le judo, la baston, le fait de, parce que c'est un sport de contact, c'est un sport violent. Est-ce qu'au quotidien ça te manque? Est-ce que t'aurais besoin de te battre encore?
J'y vais de temps en temps, mais non, ça va bien.
Stephen, souvent il y a des athlètes qui me disent, même Vincent Moscato qu'on côtoie tous les jours, de temps en temps il a envie de se battre parce qu'il a passé 30 ans de sa vie à se battre.
Il est spécial, Vincent. Oui.
Il a envie, mais il le fait.
Oui, mais
il n'a pas le même passé.
Oui, franchement, je suis en paix. Je suis passé à autre chose. J'ai fait le tour du truc pendant 20 ans en équipe de France. Il était temps de passer à autre chose. Mais j'y retourne un petit peu sur tapis une selle. Je me défoule, je m'amuse.
Dis-moi, j'ai vu le documentaire. Ça va passer où? Ça a été produit par un producteur, j'imagine.
Ça a été produit par un producteur en négociation avec quelques jeunes. Et donc le but, c'est qu'ils sortent là dans les 2-3 mois qui arrivent.
Vous avez des pistes ou...
Ouais, on a des pistes. Ouais, on a des pistes. Je sais pas si je peux le dire à Anton.
C'est toi qui veux.
Il y a Sport en France, Eurosport qui sont intéressés. Et donc c'est cool. Le but, c'est de le voir au plus grand public parce que ça touche beaucoup de gens. C'est une première partie, rêver grand et avoir des objectifs peu importe d'où tu viens. Deuxième partie, qui touche aussi les chefs d'entreprise et les gamins, c'est que en fait, tu vas te casser la gueule dans la vie. Tu vas avoir des échecs et qu'après tu pourras quand même te relever. Parce qu'on montre que je me qualifie pas aux jeux et on a décidé de continuer à tourner pendant 2 ans pour voir comment tu rebondis après ça. Puis on parle aussi un petit peu de la petite déprime d'arrêt de carrière qui n'est pas évidente
à construire.
C'est justement ma prochaine question, c'est que tu parles beaucoup de la précarrière dans ton documentaire et c'est un sujet qui m'a beaucoup parlé puisque moi aussi sur les 2 dernières années j'ai beaucoup pensé. Du coup, est-ce que cette vie post-judo professionnelle est à la hauteur de tes attentes? Est-ce que tu kiffes?
Je kiffe parce qu'il y a beaucoup de choses. Mm-hmm. Je pensais que j'allais m'ennuyer à la retraite comme tout le monde. On va avoir enfin.
T'as vu, c'est trop bien en fait.
C'est trop bien, mais en fait, il y a tellement de choses que tu t'ennuies pas. Tu vois, t'es tout le temps à droite à gauche. Tu peux enfin répondre aussi.
Pourquoi? Parce qu'il est.
J'ai coupé encore. Et donc voilà, ça me fait plaisir. Je pense que j'ai encore besoin de trouver mon équilibre. Il y a beaucoup de choses.
Tu passes dans une salle de sport?
Ouais.
T'as des bons élèves ou pas dans ta salle de sport?
Il y en a certains qui sont plus assidus que d'autres.
Parce qu'on va dire la vérité à nos auditeurs. Adrien Aiguin est un fidèle client de ta salle.
Non mais tout récent. Non mais parce que
tout récent. Oui, ça se voit. Merci.
D'accord.
Il vient d'arriver à la Villette en 15e. Voilà. Ils sont en train de la restructurer. Mais d'accord. Je peux vous promettre que dans 6 mois il a encore des fêtes incroyables.
Mais tu lui as expliqué que aller en salle de sport c'est pas un truc pour faire des rencontres. C'est pour vraiment.
J'ai vu qu'il était au bar.
Champion olympique de judo par équipe à Tokyo 2021. Donc le documentaire a priori est en bonne voie pour sortir sur une grande chaîne rapidement. Juste un mot quand même parce qu'on en est très fiers. T'as entendu Morgan tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un ou une meilleure commentateur ou commentatrice de judo dans le monde que Morgan Mori?
Ah non, il est génial.
La vérité.
J'adore. Le mec, il connaît. Il suit à fond. C'est un passionné. Enfin, Morgan, on se connaît depuis très longtemps. On est de la même génération. Donc.
Et puis la physique en plus pour commenter du judo.
C'est un judoka.
On a tourné un truc au sol.
Et on va s'en suivre. tout le week-end, bien sûr, ces championnats d'Europe de judo à Tbilissi avec Morgane Maury. Merci beaucoup, Axel.
Avec plaisir,
à bientôt
merci,
sur RMC. Dans un instant, journal moyen, d'abord on parie.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Avec Christophe Payet. Salut Christophe.
Salut Pierrot. Salut.
Il y a un PSG Lyon dimanche soir en Ligue 1.
Oui, un beau PSG Lyon. Même si, bon, c'est quand même très déséquilibré puisque le Paris Saint-Germain domine son sujet. Le leader est favori à 1,28. Lyon, qui avait 9 matchs sans gagner, a enfin réussi à renouer avec la victoire contre Lorient, mais ça va être compliqué au Parc des Princes où les Lyonnais ont perdu dans 80% des cas lors des 10 dernières visites. Je vous propose de jouer la victoire de Paris à 1,28. Bon, c'est très peu, c'est 6,25 le nul. Je vois Paris et les deux équipes marquent parce que Lyon marque quasi systématiquement au Parc contre le PSG. Et puis Ramos ou Barcola buteur, parce que je pense que ça va tourner un petit peu et que ces deux joueurs pourraient être titulaires, ils ne l'étaient pas à Liverpool. Ça, c'est 2,60. Et l'équipe du Super Moscato Show mène 3-0, c'est un événement. Donc du coup, l'équipe de Denis et d'Eric
à
au moins 7,50.
Alors c'est PSG qui gagne, deux équipes qui marquent, but de Gonzalo Ramos et Barcola, et l'écart de but entre le PSG qui gagne ou même par deux buts d'écart. La cote est à 7,75.
Non, c'est pas 7,75.
Si,
ok. Bah,
moi je vois une large victoire de Paris, donc Paris gagne les demi-temps.
Ça c'est déjà à 2,45.
Eh bah, ben ça me suffira. Voilà. Parfait. Merci Christophe. Bravo.